Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, il est avec moi dans ce studio pendant une heure pour vous faire du bien, vous chouchouter, vous conforter, vous rassurer. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons vous faire passer de l'autre côté, du côté du médecin et plus précisément du psychiatre. Dans la tête de ma psy, c'est le titre du livre de notre invité du jour, c'est Sylvie Vievurka. Elle est médecin psychiatre et elle va nous aider aujourd'hui à mieux comprendre son métier. Métier qui suscite encore aujourd'hui la méfiance. Certains les croient, par exemple, manipulateurs. Eh bien, elle va nous laisser entrer dans sa tête, nous expliquer comment elle aide ses patients. Et puis, elle nous guidera aussi, c'est utile en ce moment, vers les bonnes questions qu'il faut se poser avant de consulter un psy. Ensuite, ce sera le tour de Benjamin Lévesque avec sa chronique beauté du vendredi. Elle sent déjà bon, cette chronique, je peux vous le dire, puisqu'il va nous apprendre comment bien se parfumer. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera des disputes dans le couple. Certains disent que c'est un signe de bonne santé conjugale. Catherine nous dira ce qu'elle en pense.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer cette émission par cette question de Mohamed. Écoutons-la.
Bonjour, je voudrais laisser un message à Mélanie et au docteur Jimmy. Voilà, je souffre d'une cataracte et je dois être opéré. Et je voudrais qu'il me dise un peu plus sur cette opération. Merci.
Alors Jimmy, vous auriez pu répondre, mais on a quand même interrogé un médecin dont c'est le quotidien, la
crème
cataracte,
de la crème.
Voilà, la crème de la crème, presque l'ophtalmo d'Europe 1, en tout cas il intervient très souvent sur notre antenne, et nous l'en remercions, c'est le docteur Damien Gatinel, chef de service à l'hôpital Fondation Rothschild, on l'écoute.
Alors l'opération de la cataracte est indiquée quand la vision est suffisamment réduite pour gêner le patient. C'est l'intervention la plus réalisée dans le monde, puisque elle concerne la plupart des gens à partir d'un certain âge. Elle se réalise sous anesthésie locale, avec des gouttes, on appelle ça l'anesthésie topique. Elle dure environ 10 minutes. Elle consiste à remplacer le cristallin opacifié, qui définit donc la présence de la cataracte, par un implant. On peut utiliser la puissance optique de l'implant pour corriger un défaut comme la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, voire même la presbytie avec les implants multifocaux. C'est une opération donc de routine qui est réalisée dans des centres spécialisés par un ophtalmologiste, et qui permet, dans la grande majorité des cas, de récupérer une vision claire et satisfaisante, et aussi de réduire la dépendance aux lunettes en post-opératoire.
Voilà, c'était le docteur Gatinel au micro de Benjamin Lévesque. Jimmy, on va prendre tout de suite une autre question qui nous a été laissée sur notre répondeur, le 3921. C'est la question de Lola.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Voilà, je vous ai déjà entendu parler de maux de tête, de migraines et notamment de céphalées de tension. Moi, j'ai entendu dire que c'était par rapport au stress. Donc, ça veut dire que quand on est anxieux, on peut avoir des mal à la tête, des maux de tête. Je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Donc, voilà, comment on peut soigner ça? Je ne sais pas, avec du yoga, par exemple, de la méditation. Voilà, merci de vos réponses.
Alors, yoga, méditation, votre spécialité, on en parlera tout à l'heure, Jimmy. Une céphalée de tension, comme elle le précise, c'est quoi? C'est différent d'une migraine, d'une autre type de céphalée?
Oui, c'est complètement différent de la migraine. On dit céphalée de tension, mais ça n'a strictement rien à voir avec la tension artérielle. Alors, c'est des maux de tête qui vont avoir des caractéristiques assez déroutantes, parce que les patients vont vraiment s'en plaindre. Ils vont avoir des pressions, un casque, une gêne, une crispation, une tension au niveau de la nuque. Ça va toucher les deux côtés de la tête.
Ça va même descendre un peu dans le cou.
Ça va descendre dans le cou, exactement. Sauf que c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Si on s'intéresse aux pays industrialisés, eh bien, c'est deux tiers des hommes qui vont s'en plaindre au cours de leur vie et 80% des femmes. C'est-à-dire que c'est une plainte qu'on va voir de façon très régulière, mais qui pour autant n'est pas une vraie maladie, puisqu'on ne sait pas exactement pourquoi les gens ont mal.
Alors, par le stress ou pas? Parce qu'elle pose la question.
Oui, c'est les deux facteurs déclenchants que sont, un, le stress, et deux, la fatigue, le surmenage. Et à cette période, on peut en avoir en fin de semaine, lorsqu'on a une semaine un peu compliquée, ça va s'améliorer avec un peu le repos. Et puis, quand on va recommencer à travailler, ça va revenir. Donc, il y a évidemment une part de stress dans l'environnement, et c'est différent notamment de la migraine, par exemple, où vous allez avoir des signes digestifs. Quand on a la migraine, on va vomir, on a la nausée, la lumière va nous gêner, alors que dans ces céphalées de tension, eh bien, il suffit de se reposer et en règle générale, ça passe.
J'allais vous dire, du coup, la céphalée de tension, on la soigne avec quoi? Avec du paracétamol ou rien? Parce que vous disiez du repos, je ne sais pas.
Exactement. Alors, en cas de douleur assez intense, prenez un paracétamol.
Ça suffit.
À ce moment-là, ça suffit. Alors que dans la migraine, le paracétamol ne marche pas. Et à ce moment-là, il faut se détendre, donc dormir, faire autre chose. Et sur le long terme, c'est de travailler sur ce stress pour éviter d'avoir des crises. Dans 3% des cas, les gens vont en souffrir de façon quotidienne. Et là, ça va devenir un vrai poison pour eux. Et donc, à ce moment-là, on peut se dire que le yoga, la sophrologie...
J'allais vous dire, ça peut aider donc la méditation, tout exactement. Ce qu'elle décrivait, puisque c'est des choses quand même liées, donc de tension un peu liées au stress,
oui,
on l'a dit.
Oui, parce qu'on imagine que lorsque vous êtes stressé, surmené, vous allez synthétiser des catécholamines comme de l'adrénaline, plus de cortisol, et ça va avoir un impact justement sur ce stress. Et donc de réduire ce niveau de stress, ça va réduire les hormones, et à ce moment-là, ben, ça va aller mieux. Donc il y a un vrai traitement sur lequel on peut jouer avec le yoga, la méditation. Ce n'est pas qu'un truc de bobo, hein, comme certains peuvent le croire.
C'est très efficace.
C'est efficace. Et puis, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, au pire, ça vous fera juste du bien. Et si ça ne marche pas, bon, ce n'est pas très grave.
Ça vaut le coup de tenter. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Lola, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout pas d'hésitation.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite en studio avec nous notre invité du jour, c'est vous, docteur Sylvie Vievurka. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et l'auteur du livre « Dans la tête de ma psy » et « Comment choisir le sien » qui vient de paraître chez Humaine Science. Un livre qui a attiré notre attention parce que c'est vrai, chez nous tous, hein, le métier de psy, ça suscite beaucoup de questions, de méfiance même parfois. Certains craignent que les psys soient de grands manipulateurs par exemple, et cette méfiance, vous c'est quelque chose que d'ailleurs vous expérimentez régulièrement dans votre vie personnelle.
Oui, à chaque fois que dans un dîner où par exemple je ne connais pas tout le monde, on me demande ce que je fais dans la vie et que je dis que je suis psychiatre, il y a toujours
un moment de recul.
Un petit moment de recul, absolument. Et puis après, en général, la deuxième partie du dîner arrivent les questions et souvent, et je pense que mon collègue connaît ça, la consultation.
Voilà, carrément. Hein, c'est je ça. Pense d'abord, que vous connaissez. Repoussez les gens et puis après,
voilà, il faut travailler.
Même moi, docteur, j'ai parfois ce petit truc de répulsion, mais je me dis, ah, il est psychiatre, d'accord. D'accord. Très bien. Il n'est pas cardiologue ni pneumologue, mais il est psychiatre, effectivement, c'est vrai.
Et, oui.
Et justement, alors, avant de bien choisir son psychiatre et de savoir si vraiment on a besoin, on va peut-être faire un petit état des lieux, justement, en France. Est-ce qu'on sait quelle part des Français ont déjà fait appel à un psy ?
Alors, un psy au sens large, c'est-à-dire psychiatre, psychologue, psychothérapeute, éventuellement, on en reparlera. Aujourd'hui, il y a des sondages qui disent que 30% de la population a fait un jour appel à un psy. Et c'est un phénomène relativement nouveau, puisque je crois qu'il y a 10 ou 15 ans, on était autour de 10%.
Ah ouais.
Donc, il y a, semble-t-il, une augmentation très, très importante de la demande d'aide psychologique sous toutes ses formes.
Et vous me direz si je me trompe, mais je pense que le contexte actuel ne doit pas faire vraiment désemplir vos cabinets.
Non, le problème étant que les cabinets étant déjà plus que pleins, il y a pénurie de psy pour accueillir la souffrance et les demandes actuelles.
Et justement, la demande actuelle est en augmentation, vous nous l'avez dit. Et justement, pour bien choisir un psy, il faut savoir quelqu'un qui va travailler correctement, réfléchir avec nous. Et vous, ça fait 40 ans, notamment, que vous exercez ce métier. Est-ce que vous avez vu la profession, en tout cas votre mode de fonctionnement, évoluer avec le temps ?
Oui, alors mon mode de fonctionnement personnel, oui, je dirais c'est heureux, mais chacun d'entre nous, dans son métier, ne travaille pas de la même façon, du moins je le souhaite, je le pense.
On évolue,
début de
sa
carrière,
apprend,
on mûrit, on évolue. Donc j'ai dit mon évolution personnelle et j'ai vu aussi évoluer les demandes. Par exemple, ce qui me surprend aujourd'hui, c'est que certaines personnes viennent demander des consultations pour des problèmes que jadis on aurait traités un peu par-dessus la jambe.
Par exemple,
quand je dis à mon fils d'éteindre son ordinateur, il crise, je ne sais pas que faire, docteur, aidez-moi. On peut se dire que c'est des problèmes éducatifs.
Avant, on aurait dit, t'as qu'à lui donner un bon coup de savate,
voilà.
Et ça irait plus.
On ne se serait pas embêté autant que ça. Donc, ça devient un problème psychologique ou un problème relationnel. Et c'est vrai qu'on a vu, et du coup, ça explique pour partie le fait que la demande explose. C'est-à-dire que si un certain nombre de gens ne savent pas faire face aux exigences de la parentalité, de
mais
la vie professionnelle...
Mais ça, c'est n'importe quoi de consulter parce qu'on n'arrive pas à gérer son fils et les écrans,
non.
Par exemple.
Non,
c'est
non,
pas
c'est pas
quoi.
N'importe quoi, parce que je pense que parfois des consultations pour des choses en apparence anodines peuvent permettre de désamorcer des situations qui, si elles ne sont pas prises en compte, peuvent après amener des troubles sérieux. Oui,
d'accord.
Oui, je pense que c'est parfaitement justifié.
Alors justement, on va parler des méthodes, de la formation, mais il y a aussi peut-être la personnalité qui compte. Est-ce que, je ne sais pas, d'avoir un thérapeute, un psychiatre, un psychologue qui croit en Dieu ou pas, qui a une conception du monde particulière, est-ce que ça peut influencer son mode de fonctionnement, est-ce que ça donne le même psychiatre ? On a l'impression qu'il y a un peu de, pas de subjectif dans le métier, mais un
quand
peu
même,
quand même.
Ouais.
Oui, je pense que c'est inévitable. Dans tout métier de relation, vos croyances, vos valeurs, la façon dont vous vous situez dans le monde est un élément qui influe. Alors évidemment, si on est convenablement formé comme psychiatre, comme psychothérapeute, on apprend à neutraliser, à distancier, à s'utiliser à bon escient et à ne pas jeter en vrac à la face du patient ou du client qui on est. C'est pas l'objet, si vous voulez. Mais je pense qu'il n'y a pas de psychothérapie neutre et que la personne que nous sommes est notre principal outil de travail.
Vous, par exemple, je ne sais pas, vous avez eu une enfance qui était là, qui est la vôtre. Vous avez eu une éducation qui est la vôtre. Ça a influencé votre façon d'être psychiatre, vous pensez ?
Je pense. Ouais. Je ne suis pas forcément la mieux placée pour le dire, mais je pense que ça l'a influencé. Mais après, c'est modulé par la formation et par l'enseignement qu'on a reçu. Et on apprend, enfin moi je me souviens très bien quand j'ai commencé les études de psychiatrie, je me souviens très bien que j'ai appris à être un peu plus distancié, à être un peu plus dans l'observation, à moins à ne pas parler de moi à tort et à travers. C'est des choses qu'on apprend, qui s'enseignent et c'est important.
Alors, vous avez dit que les Françaises consultent finalement un peu plus les psychiatres et les psychologues qu'avant, que la proportion en tout cas a augmenté. Est-ce que vous pensez que c'est lié aussi à l'image ? Peut-être que vous avez une meilleure image qu'auparavant, alors que par moment, on pouvait se dire, non, les psychologues, les psychiatres, moi je suis pas fou, j'ai pas besoin d'aller le voir. Est-ce qu'on n'a pas levé peu à peu un tabou pour être aidé ? Et on va voir le psychologue quand on a un problème de tête, comme on va voir le cardiologue quand on a un problème de cœur.
Je pense qu'on n'en est pas tout à fait là, mais c'est sans doute un des éléments de la situation qui fait qu'aujourd'hui, on consulte plus facilement que jadis. Oui, je pense que, et des émissions comme la vôtre et d'autres contribuent à, comment dire, rendre moins exotique et inquiétante l'image du psychiatre. Donc, sûrement.
Et les patients ne sont pas plus jeunes qui viennent vous voir, si vous n'avez pas vous n'avez pas vu une population, ce qu'on a parfois, on se dit, voilà, on va venir vous voir à 50, 60 ans, et puis maintenant, vous avez peut-être des jeunes de 20 ans, 30 ans, peut-être avec cette période un peu particulière, qui viennent vous voir plus facilement ?
Alors, je pense, oui. Les consultations, je ne sais pas si elles rajeunissent, mais enfin, moi, je suis très frappée, par exemple, par le nombre de parents de problèmes de nature familiale qui, aujourd'hui, ne se résolvent plus, comme vous le disiez, par un simple acte d'autorité des parents et où, effectivement, on a besoin d'une espèce de médiation et de conseils. Et ça n'est pas déshonorant du tout.
Alors, la vision de ce qu'est un psychiatre que vous allez partager avec nous, c'est évidemment la vôtre, peut-être pas la même que celle d'un autre psychiatre qui serait moins expérimenté ou qui n'a pas la même formation. En tout cas, c'est un métier, vous dites, vous, qui vous a considérablement ouvert, notamment à des modes de vie différents, qui vous a enrichi. Expliquez-nous un petit peu.
Alors, si vous voulez, moi je l'explique dans mon livre sans m'étendre trop, issu d'un milieu de juifs de gauche intellectuels parisiens. Et le premier poste que j'ai eu de psychiatrie de service public, c'était en Picardie, dans une région extrêmement rurale, et avec des patients qui n'avaient rien à voir avec mon milieu, mes amis, ma famille. Bon. Et ça a été pour moi quelque chose de formidable. Honnêtement, j'ai adoré ça. C'est-à-dire de découvrir que, au fond, vous avez des gens qui sont très différents de vous et qui ont leur logique, leur construction du monde, leur vision du monde, et qu'elle n'est ni meilleure ni pire que la vôtre. Mais cette confrontation entre des modèles, des cultures, moi, m'a extrêmement enrichi. Je disais sous forme de boutade que j'étais à 100 km de Paris, je faisais de l'ethnopsychiatrie, que ce n'était peut-être pas la peine d'aller au fin fond de l'Afrique, et que pour moi, l'exotisme, il était là aussi. C'est-à-dire, je raconte dans mon livre des patients issus de milieux extrêmement modestes qui. Je me souviens d'une dame qui me dit mon mari, il me bat. J'y ai alors, où est le problème ? La dame dit, il n'est pas le droit, on n'est pas mariés. Bon, alors évidemment, curieux, moi, féministe, etc. Vous voyez, ça faisait... Et comment est-ce qu'on va faire pour travailler avec ces gens, ne pas les mépriser, ne pas considérer que mes valeurs ou ma façon de voir le monde est supérieure, rentrer en ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique pour pouvoir les aider. C'est ça le côté... passionnant de ce métier.
Donc, c'est vos patients qui vous ont aidé à grandir d'une certaine façon.
Bien sûr, et m'ont aidé à voyager, non seulement dans ma tête, mais aussi dans la leur, et à connaître d'autres formes de réflexion, de construction du monde. Et franchement, c'est une chance formidable. Oui.
Donc, c'est plus difficile finalement pour être psychiatre d'être médecin, parce que ce recul que vous devez avoir, moi je l'ai de temps en temps, mais ce n'est pas en permanence. Quelqu'un vient me voir pour une douleur abdominale, je n'ai pas toujours tout le contexte, mais vous, c'est en permanence devoir prendre de la distance sur ce que vous êtes, ce que vous pensez et le patient.
Oui. Alors, l'histoire de la distance, évidemment, si vous êtes collé au patient, psychiquement, j'entends, vous ne voyez rien et vous ne comprenez rien. Si vous êtes trop loin, les gens se sentent rejetés. Et c'est comment, justement, arriver dans cet entre-deux, entre une trop grande proximité qui vous permet de ne pas d'être créatif et d'être aidant, et une trop grande distance qui fait que la personne va se sentir incomprise, rejetée ou méprisée. C'est tout l'art, je dirais, de notre métier.
Docteur Vivurca, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
sans rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est vous, docteur Sylvie Viviorca. Vous êtes psychiatre et l'auteur du livre Dans la tête de ma psy et comment bien choisir le sien, qui est paru chez Humaine Science. Alors avec vous, on passe de l'autre côté pour une fois. Vous allez notamment nous aider à mieux comprendre qui sont les psychiatres. Et d'ailleurs, actuellement, on a du mal à y voir clair. Il y a de nombreux coachs de vie, de guides en développement personnel. Nous ici, on reçoit des tonnes de bouquins de tous ces gens-là avec ces espèces de nouveaux métiers, des nouveaux services. C'est quoi la différence entre justement ces nouveaux métiers et vous, le psychiatre, par exemple ?
Alors, il y a plusieurs catégories. Psychiatre, ça veut dire qu'on a fait des études de médecine et la psychiatrie est une spécialité médicale. Et en second temps, si on le souhaite, on peut se former à la psychothérapie, que ce soit la psychanalyse, la psychothérapie comportementale ou autre. Donc ça, c'est une première catégorie. Après, vous avez les psychologues qui ont fait des études, en général un master 2, hein, donc 5, 7, 6 ans d'études, et qui dans leurs études ont fait une formation aussi pratique, en stage, etc., et qui ne sont pas médecins, mais qui ont un savoir-faire et une compréhension de la façon dont le psychisme fonctionne et dont on peut aider les gens. Alors après, la question de tous ces coachs,
coachs de vie, guides spirituels...
Bon, pour moi... Je pense qu'il faut distinguer les métiers qui s'adressent à des gens malades ou en souffrance.
Voilà, c'est ça.
Psychiatrie, psychologie. Donc là, c'est des gens qui ont des problèmes, qui vont mal, qui ont parfois une pathologie psychiatrique avérée, c'est une chose. De toute une partie de la population qui voudrait développer son potentiel, s'améliorer,
changer de vie,
être plus performant,
etc. Bon, bien sûr.
Et à ce moment-là, effectivement, on n'est pas dans la pathologie, on n'est pas dans la souffrance, on est simplement dans ce qu'on appelle le développement personnel. Et après tout, je dirais pourquoi pas. Et là, ce sont les coachs qui sont à l'œuvre.
Là, je suis un peu votre coach de vie, Mélanie.
Oui, complètement, bien sûr. Je ne fais rien sans vous demander, d'ailleurs.
Oui, le noir, la boussole, j'indique la lumière au bout.
Voilà, est-ce que ça marche bien?
Pas du tout.
Bon,
je m'écoute toute seule et ça, c'est bien.
Bah, c'est gratuit, donc ça ne marche pas. C'est ça. Pour ça. Alors, vous dites dans votre livre qu'on vous consulte souvent pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est déprimé, pourquoi est-ce qu'on se drogue, qu'on est alcoolique. Mais c'est l'inverse qu'on devrait faire. D'abord, changer pour comprendre ensuite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, c'est pas tout à fait comme ça, mais je vais vous expliquer. Bien souvent, la première consultation, la personne arrive, par exemple, donc une dame arrive, dit « Bonjour docteur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et la dame va me dire « Écoutez, j'ai des problèmes d'alcool, je bois par excès, je voudrais comprendre pourquoi. » Et donc là, moi je me situe, je vais lui dire « Madame, est-ce que vous voulez boire moins ou arrêter de boire, ou est-ce que vous voulez comprendre ?» C'est deux choses différentes. Et en règle générale, la dame qui a lu un certain nombre de livres de psychologie me dit « Enfin, docteur, tout le monde sait que pour changer, il faut comprendre. Si je ne comprends pas pourquoi je bois, je ne pourrai pas m'arrêter. » Or, dans la façon dont je pense les choses et dans mon expérience, j'ai constaté que certaines personnes changeaient alors qu'ils n'avaient rien compris à leur propre fonctionnement, et qu'à l'inverse, vous avez des gens qui font des psychothérapies, des psychanalyses pendant 20 ans, qui ont tout compris d'eux et des autres, et qui par contre continuent à avoir le comportement qui leur pose problème. Donc je pense que cette idée qu'il faut d'abord comprendre pour pouvoir changer est une idée qui, en pratique, je dirais, ne se vérifie pas. C'est ça ce que je pense.
Donc votre boulot, au départ, c'est souvent de permettre aux patients qui vous consultent de changer de perspective pour sortir de leurs problèmes. Là, vous avez donné l'exemple de l'alcoolisme, mais il y en a beaucoup d'autres. Et vous donnez l'exemple de cette femme dans votre livre qui consulte car son mari est un égoïste qui ne prend pas soin d'elle.
Oui, ça a l'air de vous amuser. ça arrive.
Je pense qu'il y en a plein qui font ça, mais je ne consulte pas.
Alors,
ce qui est
très intéressant, c'est Mélanie, là.
Donc,
tout va bien.
Donc là, c'est le cas de figure, si vous voulez, où la personne vient consulter pour que l'autre change. Celui qui vient vous voir. Donc vous avez un problème éthique.
Ça arrive souvent, je crois.
Très souvent. Ouais. Vous avez un problème éthique, vous avez un problème déontologique, vous avez un problème pratique. C'est-à-dire comment je peux faire pour, à travers vous, faire changer votre conjoint, supposer qu'il soit égoïste et qu'il prenne pas soin de vous. Mais c'est intéressant parce que les gens qui viennent vous voir, pour eux, c'est évident. Ils disent, voilà, j'ai un problème, je suis malheureuse, mon mari ne prend pas soin de moi, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Ben, je voudrais qu'il soit plus attentif et tout. Bon, j'ai un problème, madame, je ne vois
vous
pas...
Vous en pris pour des marabouts, peut-être?
Oui, ou c'est ça, quand vous savez, vous avez ça à Barbès...
Vous avez une potion magique, voilà. Un filtre d'amour...
Mais si, on s'amuse, mais c'est extrêmement fréquent. Ouais. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que, pour paraphraser la fameuse phrase de Sartre, l'enfer, c'est les autres, hein, que leur problème vient des autres, et que si les autres s'agençaient beaucoup mieux avec eux, tout irait bien. Le malheur qu'on a tous dans notre vie, c'est que ça marche rarement comme ça. C'est-à-dire que les gens autour de vous, ils font, même si vous aimez bien, ils font ce qu'ils peuvent. Mais enfin, personne ne va se sculpter pour répondre à vos attentes et vos
désirs. Et vous lui dites quoi, cette dame, alors que son mari est égoïste et ne prend pas soin d'elle?
Je lui dis...
Divorcée, voilà.
Ouais, non, je lui dis, madame, ça fait combien d'années que vous êtes mariée? 30 ans. Je dis, bon, vous pensez vraiment que... Et votre mari, quel âge a-t-il? 58 ans. Vous pensez vraiment que il va changer?
Non.
Non.
Bon. Bon.
Donc là, on a avancé déjà,
ça,
si vous
c'est
voulez.
Bien voilà.
Mais c'est, on s'amuse, mais c'est comme ça que, oui. je travaille. C'est-à-dire que j'essaie de déconstruire la demande, qui est une demande impossible, pour passer à une demande sur laquelle on va pouvoir agir. Oui. Et après, je lui dis, madame, vous avez deux options. Soit je peux vous aider à supporter un mari inattentif,
égoïste,
ou bien vous le quittez, vous divorcez. Ah non, divorcez. Bon, bah, écoutez, bon. Madame, on peut travailler, je suis à vos côtés, je vais vous aider à supporter tout ça, voir comment faire. Mais l'idée que vous allez le rendre plus aimable et plus charmant, c'est compliqué.
Voilà.
Ou alors, si vous le souhaitez, on peut faire une thérapie de couple. À ce moment-là, c'est une autre histoire.
C'est une autre démarche, oui.
Alors justement, vous dites que vous allez les aider, mais parfois les patients peuvent dire à la sortie d'une consultation, bah, finalement, il ne m'a pas donné de conseils, je n'ai pas eu de mode d'emploi.
Ça, c'est
parce
fréquent,
que souvent, on a envie d'avoir comme une ordonnance, hein, toute faite pour savoir ce qu'on doit faire et comment se comporter par la suite.
Alors là encore, c'est peut-être des stratégies de personnes qui travaillent depuis longtemps. Il faut se donner du temps. On ne peut pas imaginer qu'on va régler un problème qui dure depuis des années, et pour lequel les gens ont déjà essayé un certain nombre de stratégies qui n'ont pas fonctionné, en 10 minutes, même si on est extrêmement brillant, enfin, à mon sens. Donc la première chose que je vais tenter de faire dans ce cas-là, c'est demander à la dame si elle m'autorise, si on se donne un peu de temps. Hein, c'est-à-dire que je lui dis, écoutez, madame...
voilà,
ça fait des années que ça dure, etc. Je vais pas pouvoir en 10 minutes régler le problème. Je suis très déçue. Je dis, bah oui, c'est comme ça. Il va falloir que vous viviez avec un peu de déception. Bon, et on travaille ces points-là parce que là encore, la demande, si on vous fait une demande qui est impossible, soit vous êtes méga mégalomane et vous êtes capable de dire que vous allez pouvoir tout faire pour tout le monde, mais c'est quand même un pari risqué. Soit vous essayez d'aider la personne à recalibrer sa demande d'une façon plausible. Donc l'idée que je vais lui dire, madame, faites ci, faites ça, et tout va s'arranger.
Parce que finalement, vous, les solutions, justement, pour moins souffrir, par exemple, oui. Quelqu'un qui viendrait très pressé, vous devez l'aider, lui trouver des solutions. En fait, non, vous allez l'aider surtout à remettre en mouvement ses capacités. C'est lui qui va s'aider, c'est la personne qui doit s'aider.
Oui, parce que ça part aussi d'une idée très, très fondamentale, à mon avis, en psychothérapie, qui est que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous. Moi, j'aime certaines choses, vous en aimez d'autres, etc. Et si je commence à donner des conseils, je vais les donner à partir de ce que j'aime, ce qui me plaît. Bon. Et c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est comment est-ce qu'on va aider quelqu'un qui est coincé, bloqué, dont la créativité relationnelle est totalement... qui répète toujours la même chose. Comment est-ce qu'on va l'aider à bifurquer, à redevenir créatif et à trouver autre chose qui lui aille mieux? C'est ça l'idée, oui, bien sûr.
Docteur Vivorca, on va continuer, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien là.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et elle nous accompagne cet après-midi. C'est le docteur Sylvie Vievurka. Vous êtes psychiatre et justement, vous allez nous aider de façon très concrète à présent à bien choisir notre psy, pour ceux qui en ressentent le besoin bien sûr. Et premièrement, quand on se décide à consulter un psy, on se retrouve face à un choix un peu cornélien. Hein. Me faut-il un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste? Alors comment on se décide dans tout ça?
Alors disons, ce qui va différencier le psychiatre du psychologue, du psychanalyste, déjà, c'est la possibilité qu'il a de prescrire des médicaments.
Voilà.
Donc, si vous souffrez de troubles du sommeil, d'une anxiété importante,
de
dépression, etc.,
le
psychologue ne pourra que constater et vous conseiller de voir un psychiatre. Donc, pour les aspects purement médicaux, si
d'accord.
Je puis dire. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Après, vous dites, je vais pas bien, je
vais
m'engager...
Pour les gens qui, par exemple, en ce moment, se sentent un peu vraiment le blues à cause de tout ce qu'on vit, de l'anxiété, qui ont une anxiété démesurée, est-ce que là, c'est psychiatre, psychologue?
Je dirais pas nécessairement psychiatre. Parce que entre être anxieux et souffrir de la situation et avoir besoin d'un suivi vraiment médical, je pense qu'il y a, une marge. Alors après, tout dépend de ce que vous voulez, je dirais. C'est aussi peut-être aux patients, et c'est un peu l'idée de ce livre, de décider lui-même de ce qu'il souhaite. Psychanalyse, ça va impliquer de la durée, il faut le savoir, c'est des années. Une certaine fréquence de consultation. Deux fois par semaine, une fois par semaine, pendant longtemps. Ça va impliquer un travail sur soi qui va vous déstabiliser et qui ne portera peut-être pas ses fruits au niveau de ce qui vous gêne, des symptômes, tout de suite.
Oui.
Voilà. Donc, si vous êtes pressé, il vaut mieux peut-être s'adresser à des thérapies type thérapie cognitivo-comportementale, parce que là, en règle générale, ça ne va pas excéder 6 mois, avec un cahier des charges assez précis et comment dire, une approche focalisée sur le symptôme, c'est-à-dire sur ce qui vous fait souffrir, plus que sur votre fonctionnement, là où la psychanalyse va s'intéresser à la façon dont vous fonctionnez. Comme disait Lacan, la guérison arrive de surcroît, c'est-à-dire de temps en temps, ça va vous améliorer, mais ce n'est pas forcément gagné.
Et comment choisir justement le psy? Parce que souvent, on va demander à des proches, est-ce que
un voisin,
tu connais pas un bon
pharmacien,
psy,
un kiné aussi.
Et finalement, se fier en quelque sorte au hasard, est-ce qu'on a besoin de ce genre de recommandation? Parce qu'on a l'impression qu'on prend un risque en prenant un psy au hasard, en se disant, mais est-ce que ça va être un bon ou pas? Ça revient souvent. Ça.
Alors, si vous voulez, déjà, il faut quand même se rendre compte que selon que vous vivez à Paris, en province, etc., vous avez du choix ou pas de choix. Oui. Si vous êtes dans une petite ville de 10 000 habitants, si vous n'allez pas faire 150 km pour aller consulter, donc déjà, la question du
bien
choix va se poser.
Ouais.
C'est bon. Mais si on est dans des grandes villes où il y a du monde, où on a le choix, moi, je pense qu'il y a donc une partie objective, j'ai essayé d'en donner quelques éléments là, sur les métiers. Et puis après, il y a quelque chose de l'ordre d'une rencontre humaine. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit, tiens, va voir un tel, il est bien, on va avoir une telle, elle est bien.
On a beaucoup aidé. Ouais.
Et vous y allez. Et la personne, premier coup d'œil, dit « Ah non, c'est insupportable, c'est pas possible, je pourrais jamais. Bon. »
Est-ce qu'il faut avoir le coup de foudre pour son psy? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que ça matche dès la première fois en disant « Ah ouais, c'est lui » ou au contraire.
Il parle presque d'amour, Dimitri.
Oui, je vois.
Mais c'est une relation très particulière. Un chirurgien, on lui demande d'opérer correctement. Donc on a l'impression que pour un psychiatre, on veut un peu d'empathie. Est-ce qu'un premier rendez-vous qui se passe pas très bien, raté,
ouais.
Est-ce que on peut quand même être au rendez-vous de cette rencontre?
Alors je décris une situation.
Il y en a une très rigolote.
Je décris une situation. J'avais, comme je le dis dans le livre, j'avais une tante, mon très très chère, qui avait un cancer, une forme très très grave dont elle a fini par décéder. Et elle me dit, je suis pas bien, etc. Je lui dis, écoute, demande à ton oncologue. Ils ont sûrement des psy. Bon, elle, ce qui se passe, et elle revient me voir après. Elle me dit, tu te rends compte, Sylvie, comment ça, ce qui s'est passé? J'arrivais, je sortais de chimio, j'étais vraiment pas bien, j'avais très soif. J'arrive chez cette femme, assez revêche, etc. Elle me dit, asseyez-vous. J'ai dit, est-ce que je pourrais avoir à boire? Et la dame, un verre d'eau, j'ai soif. La dame me dit, non, on n'est pas là pour ça. On va se mettre au travail, etc. Et ma tante était extrêmement...
on peut la comprendre.
Révoltée. Bon. Et
oui.
elle y retourne. Et
Jimmy serait allé acheter une carafe, là.
Et donc, chemin faisant, d'après ce qu'elle m'a raconté, moi, c'est deuxième main, j'y étais pas, évidemment, la dame lui explique, la psychothérapeute lui explique, elle dit, voilà, pour moi, je vais pas vous plaindre, vous êtes pas une victime, vous avez des parents, vous avez des amis, vous avez une famille. Et si moi, je commence à vous considérer comme quelqu'un qu'il faut protéger, qu'il faut plaindre, et qui ça va être pire que tout. Et effectivement, c'est ce mouvement de rébellion, de colère, qui a été un mouvement. Ma tante m'a dit, je me suis sentie vivante, je me suis sentie humaine, je me suis sentie en colère.
Donc sur le papier, ça commence mal, mais en fait, voilà. Ça commence très bien,
et
parce que je crois qu'elle l'a aidé longtemps.
Et
hein,
après,
ouais.
je le dis, cette dame, je ne l'ai jamais vue, hein, je ne sais même pas son nom, cette dame l'a accompagnée jusqu'au bout, avec une humanité extrêmement... elle a toujours été là. Mais elle a tout de suite posé un cadre qui était, je ne suis pas là pour vous plaindre. Finalement, ça a très très bien fonctionné. Peut-être qu'elle a perçu que ma tante était quelqu'un finalement d'assez battant, qui avait encore des ressources et qu'il fallait la secouer, que si on commençait à la plaindre, elle allait s'effondrer. Et ça, on peut chacun le ressentir. C'est-à-dire que vous vous rendez compte... Moi, je dis toujours, la colère, c'est antidépresseur. C'est-à-dire, quand vous n'allez pas très bien, si vous arrivez à vous chamailler avec votre conjoint, votre concierge, que sais-je, on sent tout de suite mieux. Et effectivement, en thérapie, c'est des ressources comme ça qu'on peut aussi activer, si vous voulez. C'est-à-dire, parfois, les gens vont aller mieux contre vous.
Donc un premier rendez-vous manqué, vous voyez, Jimmy, c'est pas comme en amour. Enfin, cela dit, en amour
alors,
aussi, on peut retourner
problème,
une deuxième fois.
Le problème, c'est qu'il faut que la personne revienne.
Ouais, c'est ça.
Hein, parce que je ne crois pas à la thérapie miracle. Et donc, il faut arriver à ce que la personne se sente suffisamment intriguée par votre façon de faire et intéressée et pas rejetée, justement. Pour lui donner envie de poursuivre.
C'est ça l'alliance thérapeutique, hein, justement. Donc, un premier entretien peut-être un peu rugueux, comme là vous l'avez décrit pour votre tante, ça peut être le début malgré tout d'un beau travail. C'est quoi l'alliance thérapeutique dont
L'alliance thérapeutique, c'est ça. C'est-à-dire que ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il faut être deux. Donc, il faut que le patient y mette du sien et que le professionnel aussi. C'est-à-dire que pour faire une thérapie, il faut le vouloir. Parce que c'est un investissement, c'est une implication personnelle. Et il faut que le professionnel donne envie au patient de faire ce voyage, on peut dire ça comme ça, avec lui, qui va durer quelques semaines, quelques mois, et dont il va sortir pas mal changé quand
même.
Mais
vous, à l'inverse, un patient complètement odieux qui arrive dans votre cabinet, vous n'auriez pas envie de le foutre dehors aussi
bien sûr. mais ça m'intéresse. Si vous voulez, enfin, moi, on développe des trucs un peu techniques aussi. Il y a quelqu'un d'extrêmement agressif qui arrive dans mon bureau. Je lui dis, mais.
Vous avez eu affaire d'ailleurs à des usagers de drogue, notamment à une époque, et il y en a un qui. Vous posiez toujours cette question, est-ce que tu as consommé en gros?
Oui.
Et vous dites toujours non.
Oui.
Et vous dites, mais non, c'est pas vrai, t'as l'air défoncé. Alors là, ça pouvait partir dans des trucs.
Mais écoutez, j'ai jamais eu trop de soucis. J'ai jamais eu le droit à de la violence, ou enfin, j'ai quand même travaillé de nombreuses années avec des personnes. Mais si vous voulez, par exemple, l'agressivité, c'est intéressant. C'est-à-dire, quelqu'un qui arrive très très agressif, il s'assied, je dis bonjour, je dis écoutez, moi j'ai un problème, je suis terrorisé.
Ah oui, vous le dites.
Je dis voilà, je vous vois là, vous me criez dessus. Je dis moi, j'arrive même pas à réfléchir. Or, si je peux pas réfléchir, je vais pas pouvoir vous aider. Comment on va faire? Et là, tout ça désamorce tout.
Ah ouais.
Ça désamorce tout. Et les collègues que j'avais qui étaient plus bravages, qui disaient ouais, non, j'ai pas peur et tout, ils se prenaient des coups. Moi, je dis,
elle est maligne, elle a dit qu'elle a peur.
Mais c'est la réalité. Ouais. Je dis moi, je suis trouillarde. Donc, si vous me faites peur, toute mon intelligence va être consacrée à éviter de prendre un mauvais coup. Ça va pas être consacré à vous aider. Donc, c'est à vous de voir.
Pour terminer, comment savoir si on a vraiment besoin de consulter un psy? Quelles questions il faut vraiment se poser? Certains se demandent, un homme, une femme, ça a une importance. C'est quoi la question, s'il y en a une à se poser avant d'éventuellement consulter?
Avant d'aller consulter, moi, je crois que la question à se poser, c'est est-ce que j'en ai besoin? En avoir besoin, c'est souvent pour moi la répétition qui signe le besoin. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se sortir de situations qui sont répétitives. On essaye tout le temps quelque chose, etc. et ça se passe toujours mal.
Oui.
Donc on essaye de sortir de la souffrance, on n'y arrive pas. Donc c'est plutôt la répétition qui signe l'incapacité à changer et le fait que quelqu'un d'extérieur va pouvoir vous rendre service.
Très bien, c'est un bon conseil. Merci beaucoup docteur Wiewiórka de nous avoir accompagné cet après-midi, de nous avoir aidé à y voir plus clair sur votre métier pour ceux qui voudraient en savoir plus. Je rappelle votre livre « Dans la tête de ma psy » et « Comment choisir le sien » paru chez Humaine Science. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, Santé bien-être évidemment, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque qu'on attend tous les vendredis avec impatience. Aujourd'hui, on va sentir bon puisque vous allez nous parler parfum, Benjamin. On va tout savoir sur comment se parfumer. Mais déjà, avant de se parfumer, il faut choisir ce parfum. Comment est-ce qu'on trouve la perle rare?
Alors c'est très subjectif, hein, parfum Mélanie. Hein. Ça ne dépend pas de vos traits de caractère, on ne peut pas dire, tiens, vous êtes joyeuse, Jimmy, timide, donc utilisez ces nuances d'odeur. Ça dépend vraiment de vos goûts et dénicher son parfum sur mesure, c'est possible. Plusieurs parfumeries le proposent et je suis allé à la rencontre de Patrice Dana, il est directeur créateur au Studio des Parfums à Paris. Bonjour Patrice.
Bonjour Benjamin.
Vous m'avez promis de trouver un parfum sur mesure pour moi, alors comment est-ce qu'on procède, comment est-ce qu'on va faire?
Ah, les promesses. Tout d'abord, on va définir un profil olfactif. Vous allez sentir un grand nombre de notes et vous allez me dire celle que vous préférez.
Je vous suis. Alors, on commence par lesquelles?
Je vais vous proposer une note qui s'appelle Bois Booster chez nous. Vous avez pris deux boisés pour l'instant. Je vais vous proposer pour l'équilibre du parfum une note légèrement ambrée.
Je sens un petit côté vanille.
C'est une fête de tonka et qui va donner un côté assez blanc, assez solaire malgré tout.
Et là, Patrice, je regarde un petit peu votre atelier. Il y a combien de notes de parfum au total?
180. Donc là, l'idée, c'est d'être un peu plus créatif et de commencer à vous proposer quelque chose d'un peu plus atypique.
Ah, je trouve, avec un peu plus de caractère là.
C'est-à-dire que plus on va aller sur la création du parfum, plus il aura du caractère, plus il va être engagé.
Donc là, moi, je le sens un petit peu trop floral. Qu'est-ce qu'on va faire?
Eh bien, écoutez, on va les rééquilibrer sur le boisé. et on va descendre l'intensité.
D'accord, donc je les sens toutes là parmi toutes celles-ci.
Une petite trentaine là.
Alors je vais vous garder mandarine, poivre, lavande sauvage et puis bergamote.
C'est un très bel équilibre. On a mis maintenant toutes les notes qui vous intéressent. Ceci est notre troisième test et si tout va bien, la dernière étape. On va voir si elles vous conviennent.
Ok, parfait. Alors je sens... ça me plaît beaucoup. Bravo parce que c'est parfaitement moi. Et bah, merci beaucoup Patrice.
Avec plaisir Benjamin, vous revenez quand vous souhaitez.
Voilà pour cet aperçu, hein, puisque l'atelier
c'est
a duré presque deux heures.
C'est pour ça que vous sentez si bon aujourd'hui dans le studio. Vous avez enfin votre parfum sur mesure.
Un petit mot sur le prix, c'est 95€ pour un flacon de 30 ml.
Bon, une fois qu'on a son parfum, Benjamin, comment est-ce qu'on fait pour l'appliquer? Est-ce que, comme pour les gestes de premier secours, on a des bons gestes à adopter pour mettre son parfum?
Alors, il faut savoir que la tenue du parfum sera plus importante sur nos vêtements. Hein. L'idéal, c'est par exemple de vaporiser son foulard pour pouvoir en profiter plusieurs jours. Et puis une autre tendance, ça fonctionne pour les cheveux longs, désolé Jimmy, c'est de parfumer son peigne, sa brosse à cheveux.
Ah, oui.
Et on aura ce petit moment de plaisir olfactif dès qu'on bougera nos cheveux.
Ça, vous pouvez pas essayer, Jimmy. Alors, quand même, comment on se l'applique sur la peau? Parce que bon, oui, certes, moi j'en mets dans les cheveux, j'en mets sur les vêtements, mais j'en mets un peu dans le cou, derrière les oreilles,
je sais pas. Il faut cibler les points qu'on dit de pulsation, comme l'explique Catel Plisson, elle est parfumeur créateur pour la marque Aquarelle.
Au niveau des poignets, derrière les oreilles, dans le creux des genoux. C'est des zones où effectivement on a des rencontres au niveau sanguine. C'est des points les plus chauds dans le corps et c'est vrai que du coup ça permet une meilleure diffusion. Quand on applique son parfum sur la peau, on voit avoir la chaleur de la peau et l'odeur de la peau qui va intervenir aussi. Ce qui va faire un mélange qui va permettre de faire évoluer le parfum, d'intervenir sur le parfum et qui va permettre aussi une meilleure diffusion. Donc le parfum va pouvoir diffuser et évoluer au cours de la journée avec le temps.
Et pour les princesses comme vous, Mélanie, eh bien,
qui est gentil. Vous êtes tellement plus gentil que Jimmy.
Les ladies comme vous, eh bien, on peut créer un nuage de parfum et entrer dedans. C'est un beau côté magique pour se parfumer de la tête aux pieds.
Benjamin, bon, on sait que le maquillage, les crèmes, ça se périme. Est-ce que c'est la même chose pour le parfum?
Eh bien, on dit que l'espérance de vie d'un parfum est de minimum 2 à 3 ans. Mais vous pouvez avoir des flacons qui vont durer 10, 15, voire 20 ans. L'odeur va bien sûr évoluer, mais je vous rassure, ça ne va pas sentir le moisi. Il faut le conserver le plus longtemps possible. Eh bien, il faut le garder au frais, 10-15 degrés maximum et à l'abri de la lumière. Et pour reconnaître un parfum périmé, selon Catel Plisson, il faut absolument regarder sa couleur.
Il peut avoir des parfums qui vont devenir très très ambrés, donc très marron. Alors, ou ça peut être des parfums qui ont eu initialement des colorants, qui vont avoir une couleur qui n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que des parfums bleus peuvent devenir verts. Des parfums qui sont légèrement rosés peuvent devenir moins roses. Quand on a beaucoup d'agrumes, on a des parfums qui ont tendance à être un peu orangés et qui vont là par contre se décolorer, donc vont être plus transparents. Et l'évolution de l'odeur. Donc on a des notes, ce qu'on dit oxydées, ce sont des notes qui sont très vinaigrées. Donc on a une odeur un peu vinaigrée. Alors quand on arrive vraiment à cette note-là, effectivement, le parfum, on va dire qu'il peut être, oui, effectivement, périmé.
Et dernière chose à savoir, de façon générale, tout ce qui est agrumes, eau de Cologne, s'abîme plus rapidement, tandis que les notes boisées, vanillées, eh bien, auront tendance à durer un peu plus longtemps.
Merci beaucoup, Benjamin. Mais Jimmy, c'est pour ça que vous sentez la vinaigrette. Il a combien d'années, votre parfum? Allez, merci pour ce conseil beauté du vendredi.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Nous accueillons ensuite, bien sûr, Catherine Blanc, qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Et aujourd'hui, Catherine, on a choisi un thème. Enfin, c'est Jimmy, hein, comme tous les jours, qui nous choisit de temps en temps un petit thème, comme ça, un grand thème du jour. Jimmy, aujourd'hui, c'est quoi le thème, d'ailleurs?
Est-ce que se disputer dans un couple est bon signe? Alors, surtout en cette période où on est un peu confinés, on est les uns sur les autres.
Pas dur pour les couples en ce moment.
C'est vrai que c'est une période qui reste plus difficile, mais se disputer dans un couple, bah, ça fait partie de la vie de tous les jours.
Alors, bien sûr que ça
peut-être
fait
pas tous les jours, mais
il y a dispute et dispute, hein, mais, voilà. Mais ça fait partie de la vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, parce que l'on s'aime, parce que l'on vit ensemble, parce que on bâtit ensemble, de voir tous les jours dans la même direction. Des personnes peuvent vivre ensemble, s'aimer, comme travailler ensemble et ne pas être d'accord et se disputer sans que ce soit un péril majeur. On n'a pas à avoir peur de se disputer, avoir peur de la contradiction. Par contre, on peut faire en sorte qu'elle soit constructive, c'est-à-dire qu'une dispute, c'est un commentaire.
C'est un échange.
C'est un échange houleux parfois, souvent mêlé et emmêlé d'affects. Mais c'est une occasion justement de mettre à jour ces affects et de les démêler justement pour faire grandir la relation.
Est-ce que si on se dispute, ça veut dire qu'on est très attaché? Parce que quand on ne se dispute pas, c'est qu'on s'en fout de l'autre, non? Quand on rentre en opposition à quelqu'un, déjà, c'est une façon de dire qu'on a vraiment un lien, on est attaché l'un à l'autre, donc on se contredit peut-être?
Alors, je ne prendrai pas le vas-y Johnny fais-moi mal. Je pense qu'on n'est pas obligé non plus de se disputer pour prouver que l'on s'aime et pour prouver qu'il y a de la passion. Encore une fois, comme si tout était très très pulsionnel et donc on est dans la passion. On fusionne et puis quand on défusionne un tout petit peu, on se déchire pour mieux se retrouver. Ça, ce sont quand même des rythmes qui sont épuisants pour le couple. Épuisant surtout quand en plus il y a des enfants.
Chez qui c'est quasiment un mode de fonctionnement, la dispute. Hein.
Exactement. C'est comme si ils avaient peur de s'endormir. Et souvent, c'est, je trouve, une marque plutôt de déprime qui fait qu'on est beaucoup dans l'agressivité pour ne pas sombrer, pour ne pas s'éteindre ou par peur aussi d'être absorbé par l'autre dans quelque chose d'un peu trop douillé. Une angoisse d'être mangé en quelque sorte par la douceur ou la tendresse de l'autre.
Et puis le motif de la dispute est peut-être aussi important. Si on a posé un lapin après un rendez-vous, on peut comprendre qu'on se dispute, mais si c'est une histoire de lave-vaisselle qui n'a pas été vidée, est-ce que pour autant on doit se disputer ?
Jimmy dit, mais non, c'est pas grave, t'as pas vidé de lave-vaisselle, enfin, chérie, c'est pas un souci, tu le feras comme d'habitude.
Non, mais ça va se faire.
Ne crie pas.
Il y a pire dans la vie, il y a le Covid en ce moment, c'est ce que je dis.
Ça, c'est souvent ce que les hommes disent. Hein. Il y a pire que les chaussettes sales qui traînent, il y a pire que le lave-vaisselle pas rempli.
Il y a la situation sanitaire que nous vivons en ce moment. À l'échelle des soignants à l'hôpital, je peux vous assurer que les chaussettes et le lave-vaisselle, c'est pas très grave.
Je pense que votre dispute, là, tous les deux, montre bien vos deux points de vue.
C'est un couple professionnel. C'est ça,
ça montre aussi bien vos points de vue, qui sont vos points de vue dus à votre positionnement, vos intérêts, vos priorités, et que c'est une façon, effectivement, sur des sujets qui peuvent paraître anecdotiques, c'est une façon de marquer son territoire, de dire qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour l'un, pour les faire entendre à l'autre, et réciproquement. Et donc ça, c'est nécessaire de se faire entendre. Maintenant, ça peut être extrêmement stérile. On peut que se disputer pour se disputer, et puis après, de guerre lasse, on s'arrête ou au contraire, on se déchire, ce qui serait grave. Donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Se disputer peut être une façon de se faire entendre, mais ce peut être une façon de stériliser la relation et l'échange. Ne pas se disputer peut être une façon de témoigner du fait que l'autre n'est que quantité négligeable et un truc que l'on déplace, donc on ne s'arrête pas et on ne prend même pas la peine de lui parler ou lui dire qu'on n'est pas d'accord. Ou au contraire, parce qu'on l'aime, on sait écouter, entendre et peut-être essayer d'être plus dans quelque chose d'un peu plus diplomate et anticipatif plutôt que de à chaque fois monter en épingle les tensions. Donc il n'y a pas de règle. Les couples qui s'aiment ne sont pas ceux qui se disputent plus ou ceux qui se disputent moins. C'est que veut dire le fait de ne pas se disputer et que veut dire le fait de se disputer.
Bon, est-ce que si tout va bien, une bonne petite dispute de temps en temps,
après
ça permet...
réconciliation.
Ça permet une réconciliation, ça. Est-ce que ça reste malgré tout
Parce que vous la mettez sur votre agenda. Une bonne petite dispute.
J'ai mis la prévoir. Alors, tous les mardis.
Ça fait 4 mois, tout va bien.
Ou une raclette ou une petite dispute.
Ça fait 4 mois que tout va bien, donc on se dit, allez, là, on va s'embrouiller un peu, et puis ça remet un peu de piment dans cette mauvaise idée, ça.
Mais peut-être que vous avez le sentiment de vous endormir, et vous avez peut-être besoin de cette petite dispute. Bon, bah écoutez, liberté, liberté chérie, dans la mesure où votre femme partage ce point de vue.
Ouais, c'est ça, je suis pas sûre. Hein. Bon, la dispute, c'est bon pour le couple, mais il y a des limites, quoi, c'est ça?
Oui, je crois qu'on peut apprendre à se faire du bien.
Si on se fait la gueule tous les jours, ça sert plus à rien, je crois, quand même.
C'est pas que ça sert plus à rien, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qu'on ne sait pas dire autrement. Moi, je crois que c'est surtout qu'on va mal individuellement et qu'on le reporte sur l'autre, qu'on attaque systématiquement. Je pense qu'il faut d'abord regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi.
Très bien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour, messieurs.
Bonjour Mélanie.
Vous n'êtes pas traqués?
Non, du tout, j'espère.
Ni détraqués.
Quoique. C'est le thème. Ce sont des Lady traqués et détraqués. Alors, on va commencer par Billie Holiday, un drôle de vie.
Traquée par l'FBI.
Lady Diana, traquée par les paparazzi. Mais oui. Et vous avez choisi qui?
Alors, Britney Spears, détraquée.
Là, du coup.
Détraquée, ouais, bien vu, vous avez suivi. Mais traquée aussi par sa mère, qui lui a placé une puce GPS sous l'épaule pour pouvoir la localiser facilement.
Alors, je vais faire ça avec mes enfants, moi.
Je vous donne des idées comme ça.
Merci, c'est gentil, c'est gratuit. N'hésitez pas, ça se passe sur Europe 1, restez bien avec nous.